see this kind of psychedelic woman for some nightclub and I ask her, say, sir, mean say the shoe way you get that kind of tongue bottom. Now why? Then cat, mean say that dress way woman they wear, where they see all them leg drop. Anyway, ask for me, I said, say that one, then they call her meaning. Going on, he say, then mean all the ampy and lipstick them them way. Make woman in face shine like silver. And last of all, lick means say woman way ready at any time for go anywhere. In fact, this one be the new be some papa. So I want to sing some song just now where you all go here.
Well, I say, hey, psychedelic woman.
Bonjour et bienvenue à l'émission Psychodébat sur Radio Galère. Donc c'est la rentrée, on revient après un mois de pause et on va faire une émission très spéciale avec un invité assez spécial. Donc on a abordé plusieurs thèmes avant cette petite pause estivale. On a abordé des thèmes sur l'éco-anxiété, sur la confiance en soi, sur l'image, le choix de style, le choix de métier. Et aujourd'hui, notre invité sera Mathieu Bédini, Mister France. Et on aura plusieurs intervenants qui pourront poser des questions. Ça sera un échange. Comme d'habitude, le psychodébat, c'est un échange où on va essayer de, à travers la conversation de groupe, de ressortir des conclusions et des solutions à des problématiques, parler de bien-être et comment on se sent bien dans la vie et parler de nos différents tracas. Donc je vais laisser la parole à une des intervenantes d'aujourd'hui, Marie, si tu veux bien te présenter, et je t'en prie.
Bonjour, je m'appelle Marie Feta.
J'entends rien.
Je suis étudiante, enfin je viens de finir mes études aux États-Unis et en français.
Ben, merci beaucoup Marie. Et je vais laisser du coup la parole à notre invité spécial, Mathieu, Mister France 2025. Présentons un peu et on enchaînera sur les questions.
Merci beaucoup pour cette présentation, merci pour votre accueil. Donc je m'appelle Mathieu, j'ai 24 ans, je viens de Haute-Savoie, donc j'ai fait un peu de chemin pour venir jusqu'ici. J'ai effectivement été élu Mister France 2025 en janvier dernier, donc c'est un concours d'élégance ici en France. C'est le concours masculin qui représente l'élégance. On a évidemment nos homonymes français aussi, françaises pardon, avec le concours Miss France, et c'est un concours qui va élire quelqu'un qui a de grandes valeurs, quelqu'un qui a des projets, qui veut défendre aussi pourquoi pas une cause, sans prétendre évidemment être l'exemple parfait. Et pour moi, ma cause, ça a été l'environnement, ça a été l'éco-responsabilité, donc faire attention aux petits gestes du quotidien qui sont négatifs pour notre environnement. Et voilà, j'en ai fait ma cause et je suis ravi d'être ici à Marseille avec Atmosud, avec aussi l'air et moi évidemment. Merci beaucoup pour votre accueil une seconde fois et puis au plaisir d'être ici.
Ben, merci beaucoup Mathieu. Peut-être que je vais laisser la parole en régie à Angelina. Tu peux aussi enchaîner sur une question et tu peux présenter au début si tu veux.
Vous m'entendez bien
là? Oui, on t'entend très bien.
Écoutez, je suis super contente de reprendre la radio et c'est super d'avoir Mister France avec nous.
Il n'y a pas de chaise.
Pendant cette émission. Est-ce que j'ai une question là pour commencer?
Oui. Une petite question.
Ça
déjà,
peut être pour
comment
tous.
Est-ce que tu as aimé ta semaine avec nous? Parce que en vrai, ça fait depuis mardi que tu es là, donc. Qu'est-ce que tu as pensé?
Qu'est-ce que je pense de cette semaine,
ouais, de cette
ici à Marseille?
À Marseille, avec la Fédération L'Air et moi.
Eh bien, écoutez, sincèrement, j'apprécie énormément le geste et j'apprécie énormément l'invitation. J'étais jamais venu à Marseille, donc ça m'a fait aussi beaucoup plaisir de découvrir cette ville. Et puis après, au niveau de l'équipe de cette fédération, je trouve assez exceptionnel cette envie de vouloir faire des choses, cette envie de vouloir mettre en place des choses. Et il y a vraiment une très bonne humeur aussi au sein de cette équipe. Et et c'est vraiment appréciable de collaborer avec vous sur cette semaine et puis pourquoi pas bien sûr collaborer avec vous sur sur d'autres opérations à venir.
Ben merci beaucoup Mathieu pour
merci
et on a passé une très bonne semaine avec toi aussi.
C'est pas fini.
Oui, il nous reste encore demain. Je laisse la parole à Victor Hugo Espinoza qui vient de nous rejoindre. Donc en courant. Donc Victor,
oui.
Je te laisse
juste
parler.
Peut-être dire deux mots pour les gens qui nous écoutent parce que déjà quand les gens ils se disent Mister France, on s'en fait rire parce que il y a Miss France, pourquoi pas Mister France. Et quand nous, on s'est lancé dans, la, dans ce partenariat un petit peu de cette semaine, parce qu'on a compris que déjà, Mister France, c'est pas tant Mister France qui nous intéresse, c'était plutôt Mathieu, et comme personne qui s'intéresse à la vie, s'intéresse à les problèmes du Mont Blanc, s'intéresse à l'écologie. Et je trouve que lui, il peut toucher un public de 80 000, 50 000, 100 000 personnes, qui c'est pas le même public que nous, on touche. Donc, comme ça, Léry et moi, Admo Sud, nous sommes pas plus connus. C'est, on touche un autre type de gens. Et ça, c'est déjà une grande valeur. Et après, aussi, ce qui apporte Mathieu, avec son regard pour rapport aux choses qu'on fait. Par exemple, demain, on va aller dans sa lycée et on va montrer comment on fait l'éloquence dans ce lycée. On va profiter d'échanger avec Mathieu. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choses appris. Et finalement, on ne regrette pas du tout d'avoir dit oui à cet échange avec Mister France. Je voulais juste lui poser la question. On vient d'arriver des Calanques. Il a fait le tour des Calanques en bateau. On était à Cassis pour montrer qu'est-ce que c'est un parc national des Calanques, montrer qu'il y a eu 50 associations quand même pendant presque 50 ans qui sont luttées pour avoir ces statuts de parc national. Et peut-être une première question serait de poser la question, tu l'as vu par la mer, tu l'as vu aussi, tu as marché avec nous, tu même t'es baigné. Et donc raconte-nous quelle est ton impression, est-ce que tu comprends mieux à quoi ça sert un parc?
Bien sûr, bien sûr. Déjà, merci pour cet après-midi, pour cette journée complète même. J'ai pu voir effectivement les Calanques d'un point de vue de la mer, en bateau, et puis aussi d'un point de vue terrestre, évidemment, en faisant une belle petite randonnée jusqu'à une belle petite plage assez intimiste. C'était vraiment sympa. Alors moi, j'ai déjà des parcs nationaux chez moi en Haute-Savoie, parce que je viens de pas très loin d'Annecy, pas très loin de Chamonix, donc on a des parcs nationaux aussi, mais plutôt en montagne. Donc j'ai déjà un aperçu de ce que c'est qu'un parc national, et je comprends tout à fait toute l'idéologie qu'il y a derrière, parce que visiblement il y a quelques années les Calanques n'étaient pas du tout un parc national, il y a quelques dizaines d'années, et c'était l'activité humaine se sentait grandement au sein de cet espace naturel et ça a pu laisser des traces et on a pu en voir d'ailleurs quelques traces en bateau, notamment avec des carrières, donc de voilà des entreprises qui venaient piller un petit peu ou chercher tout simplement de la pierre pour pouvoir faire des constructions. Tout ça a évidemment été freiné parce qu'il y avait trop d'aspects négatifs à cette recherche, à cette activité professionnelle. Donc c'est aussi un quelque chose d'assez magnifique. Sincèrement, j'ai trouvé ça très grandiose parce que c'est assez vertigineux. On a des parois qui sont verticales complètement, qui se jettent dans la mer. Moi, j'avais jamais vu ça et je trouve ça très très beau. Il y a aussi des espèces avec des biotopes. Hein, il me semble, Victor, tu me parlais de biotopes pour une espèce de
des aigles et des bonélies.
Une espèce d'aigle, voilà. Donc ça permet de conserver des espèces comme ça qui étaient peut-être en voie de disparition. Moi, j'avais le cas et j'ai toujours le cas chez moi avec les chamois, avec les marmottes, ce genre de choses. C'est des espèces différentes, mais je pense la même idéologie. Donc c'est génial de retrouver ça ici. Et puis c'est génial que vous ayez réussi à mettre en place ce parc national-là.
C'est pour ça que pour les gens qui nous écoutent, si on a réussi, c'est vrai qu'il y a eu des politiques qui se sont mêlées à la fin, comme M. Tessier, qui sont beaucoup mis en relation politique avec M. Sarkozy, qui c'est lui qui a voté avec son ministre. C'est vrai qu'on a fait un peu de stratégie, mais sans la population, sans toutes ces associations, 50 qui sont bougées, 50 associations pendant des années, et on n'est pas des parcs. Donc la mobilisation citoyenne, c'est capital.
Ouais, je trouve ça vraiment merveilleux. Et puis vous avez une région qui est très très belle. L'aspect relief avec les montagnes, je trouve ça magnifique, ça me rappelle un peu chez moi et ça me rappelle la beauté de ces paysages là. Donc non, j'ai vraiment passé une très belle journée, j'ai appris pas mal de choses aussi. Donc voilà, j'en ressors très grandi. Merci beaucoup.
T'as appris aussi que l'eau est froide.
J'ai appris que l'eau est très froide hein. C'est quelque chose hein, chez vous hein, les Marseillais. Non, c'est vraiment très froid, mais très très bien, mis à part ça, très très bien.
Donc nous on a eu la chance de te voir un peu toute la semaine. Je vais laisser à Marie qui te rencontre à l'instant poser une question, peut-être sur Mister France en général ou sur ton engagement.
Je suis tout oui.
Comment, quelle était ton, parce qu'on m'a dit que ta cause était l'écologie en montant. Quel était ton rapport à la nature quand tu as grandi? Comment tu l'as abordé au sein de Mister France?
Bien sûr, merci pour cette question. J'ai grandi avec les montagnes, j'ai grandi avec le ski, j'ai grandi avec les randonnées l'été. Ça fait partie de mon éducation en fait. Ces grands espaces, ces espaces verts et la nature, la forêt, voilà, tout ça, j'ai vraiment grandi avec. Ça fait vraiment partie de mon éducation à moi personnelle, mais aussi de mon éducation scolaire. On nous a appris à faire attention à l'environnement parce qu'on grandissait avec cet environnement-là. Déjà dans un premier temps, et puis après, pourquoi est-ce que je me suis orienté là-dessus comme cause à défendre ou comme projet à défendre avec Mister France? C'est parce que ça coulait de sens. Moi, j'ai fait des études en promotion immobilière, en conception de logement immobilier et surtout en éco-conception. On est face aujourd'hui à une crise climatique. Et c'est vrai que les législations deviennent de plus en plus dures à ce niveau-là, au niveau de la conception des projets immobiliers. Donc, on a dû de plus en plus intégrer les espaces verts et puis proposer des logements qui soient beaucoup plus adaptés avec les besoins de nos jours aussi. Donc, j'avais déjà cette philosophie et cette façon de travailler en pensant à l'environnement aussi et aux conséquences de ce qu'on allait pouvoir mettre en place avec ces travaux-là. Déjà, et puis après, personnellement, moi je suis asthmatique, donc c'est une faiblesse de naissance, et du coup je suis beaucoup plus sensible à toutes ces fines particules. Donc ça faisait suffisamment de points pour pouvoir me lancer dans la défense de l'environnement de façon assez officielle avec ce concours Mister France. Et donc voilà, il y avait autre chose que je voulais vous dire, mais je crois que j'ai oublié, ça reviendra.
Pas de souci, on aura le temps pendant cette heure-là. Et moi, je trouve ça super parce que je pense que, comme la plupart des personnes autour de la table, je connaissais pas forcément le concours avant ta venue. Et franchement, je pense que tu portes bien la marque et même toi, en tant que personne, t'es assez avenant.
Donc, merci beaucoup.
Victor, poser une question.
Ce que je trouvais très intéressant aussi quand tu as parlé des que c'est un concours pas de beauté. C'est un concours pour une part d'élégance, c'est un concours d'intelligence, c'est un concours de conviction. Ça veut dire que c'est un concours dans lequel on va demander aux jeunes de s'impliquer pour une lutte. Et ce que je trouvais intéressant de notre côté, on a dit, dans cette vie, on est habitués au niveau de l'Érémois à faire des animations pour les quartiers populaires, pour les enfants, pour les politiques, pour les casse-pieds, les associations. Donc, la façon de faire, c'est pas la même. Comme c'est pas la même, je trouve que pour communiquer, c'est aussi pas la même. Donc, je pense que quand on a joué la carte on a quand même, avant de dire oui, si les choses se font pas comme ça, il y a l'humanité première, on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, et en fonction de ça, nous aussi, on regrette pas du tout. Parce qu'on croyait, tu es accessible, tu es pas quelqu'un qui, tu as une route à faire, et ça, je pense que c'est un passage dans la vie. Et je pense que c'est une bonne chose, finalement.
Merci beaucoup. Mais c'est vrai que j'essayais, en fait, et puis j'essaye toujours d'ailleurs, parce que c'est pas encore fini, hein, l'année Mister France, c'est jusqu'à janvier prochain. J'essaie, en fait, de casser un peu cette idéologie qu'on peut avoir autour de ce genre de concours. Les journalistes aiment appeler ça des concours de beauté. On est loin d'un concours de beauté, sinon on demanderait pas aux candidats de parler, de tenir un discours devant des personnes, de défendre une cause, et on ferait un simple concours de photos, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai que j'essaye cette année, tant bien que mal, de montrer que Mister France peut avoir des convictions, de montrer que Mister France c'est quelqu'un d'autre que quelqu'un qui poste des photos en slip sur Instagram. C'est bien plus que ça. C'est quelqu'un, voilà, qui peut avoir la tête sur les épaules et qui peut défendre une cause avec beaucoup d'envie et beaucoup de conviction.
Ben, merci beaucoup. Je vais laisser les gens en régie poser une question, que ce soit sur Mister France, son engagement ou bien sa venue à Marseille.
On t'écoute.
Ah oui, bonjour.
Et si, si t'as pas de questions, pose-toi des questions. Pourquoi t'as pas de questions?
Je l'ai entendu pendant toute la semaine, ça.
Demain, je vais le répéter à les jeunes.
Non, donc ma petite question, ça serait donc toi, en tant que Miss en France, qu'est-ce que tu attends de ton rôle lorsque les gens ils te suivent sur les réseaux ou t'écoutent à la radio? Qu'est-ce que t'aimerais apporter à ces personnes-là? Du coup, de ton accès environnement, écologie, etc.
Bien sûr, merci pour cette question. Alors, je suis pas donneur de leçons. C'est pas du tout ma façon d'être. Déjà, moi, ce que je veux, c'est donner accès à l'information, une information ou plusieurs informations qui sont encore trop scientifiques sur des problèmes de qualité de l'air, sur des problèmes d'environnement, sur des problèmes de d'éco-responsabilité, de pollution. Et c'est pour ça que je me rapproche de d'associations comme l'Air et Moi ou comme d'autres associations avec lesquelles je travaille près de chez moi, parce que moi, je sais pas tout. Je suis loin de tout savoir sur ces problèmes-là de pollution, d'environnement. Et en me rapprochant avec des personnes qui sont pour le coup sachantes, eh ben, moi je sers de tout simplement de lien, de biais de communication, parce qu'on est suivi, le comité Mister France et moi-même, par beaucoup de jeunes. On a à peu près 70%, en tout cas sur mon compte Instagram par exemple, à peu près 70% dans les statistiques, ce sont des jeunes qui sont entre 18 et 35 ans. Et je pense que c'est surtout la population jeune, voire même très jeune, hein, qui sont en dessous de 18 ans, qu'il faut sensibiliser. Il faudrait que dans le système éducatif français, par exemple, eh ben, on puisse avoir des cours axés sur l'environnement. Je pense que c'est nécessaire. Moi, ça a commencé par là, hein, vraiment, dans mes cours. J'étais en STI2D au lycée, et je suivais une filiale architecture et construction, et j'avais des cours sur le développement durable, sur la façon dont on pouvait le moins polluer en faisant de l'immobilier, justement. Donc je pense que ça passe par ça, et on était la seule filiale à avoir accès à ce genre de cours. Donc c'est assez exceptionnel dans le sens négatif du terme. Je pense que on devrait tous avoir accès à ce genre de cours, accès à ce genre d'information, à ce genre de sensibilisation pour pouvoir transmettre ces éléments-là. Voilà.
Ben, merci beaucoup pour cette réponse très complète, Mathieu. Je voulais savoir si Angelina avait une question en régie aussi.
Moi, je pas forcément de question, mais
c'est la question de la régie.
Mais par contre, désolée. Par contre, je voulais juste soulever que moi, je trouvais ça super chouette que il y ait une personne, pour Mister France, qui ait aussi eu du coup une formation environnementale et qui veuille user de sa visibilité et de ce titre pour mettre en avant tout ce qu'il a appris avant sur les problématiques environnementales, etc. Donc bravo, franchement c'est super, il en faut plus comme toi.
Merci beaucoup, c'est gentil, ça me touche.
Je voulais vous rappeler, on a bientôt la pause musicale à 18h30, mais que vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 04 91 08 28 10 et vous pouvez appeler au cours de l'émission et on répondra à toutes vos questions.
Notre invité, c'est Mister France, il s'appelle Mathieu, et si vous voulez poser des questions, vous pouvez les faire. Pourquoi Mister France? C'est vrai que c'est pas aussi connu que Miss France, mais c'est un concours que, selon comment est dirigé, ça peut être quelque chose de très très positif. Pourquoi pas Mister France quand il y a une Miss France? Pourquoi pas? Donc l'important, que c'est les valeurs qui vont passer, la façon pourquoi défendre des convictions, des luttes. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc je pense que si orienté comme ça, je pense que beaucoup de gens seront partants de voir des Mister France. Et en même temps, c'est aussi un parcours pour des jeunes de passer pour une épreuve sympa, un échange. Donc tout ça, je pense que c'est, quand on regarde comme ça d'une façon trop rapide, on dit c'est n'importe quoi, et en même temps on se rend compte que des fois on est à des a priori.
Ah, oui, c'est sûr. Et c'est bien que la cible que tu es soit assez jeune, parce que je pense que c'est cette partie-là qu'on doit aussi sensibiliser, parce que l'éducation joue un grand rôle. Nous, dans l'air et moi, on le comprend très facilement parce qu'on on s'appuie beaucoup sur l'éducation, et donc donner de bonnes habitudes. Et oui, c'est pas forcément donneur de leçons comme tu le disais, mais plus exposer les faits, vulgariser aussi la science, parce qu'elle existe, il y a de l'observation, les scientifiques travaillent dessus, l'alerte est lancée, mais c'est bien de faire passer le message et par différents courants, et je trouve que c'est important de diversifier pour que tout le monde puisse être atteint et puisse être informé.
Bien sûr, c'est la clé. Et moi j'aimerais rajouter quelque chose, nos enfants, nos petits-enfants, ils vont avoir à traiter ce problème-là qui est déjà très grandissant à notre époque, avec encore plus d'énergie, ça c'est sûr et certain. J'étais pas axé dans le micro, c'est ça?
Exactement.
Oui, ce que je disais, c'est que ces nouvelles générations-là, elles vont avoir à traiter ce problème-là avec beaucoup plus d'énergie. Ça, c'est sûr et certain, parce que ces problèmes de pollution, ces problèmes d'environnement, de réchauffement climatique, c'est un problème qui fonctionne avec inertie. C'est-à-dire que c'est un problème qui a déjà commencé depuis des années, et avec tout ce qu'on a pu mettre en place au niveau des transports, au niveau de l'activité humaine, on a passé le seuil des 8 milliards d'individus sur Terre, donc on consomme et on pollue énormément. Parce que l'homme ne sait pas faire sans polluer, jusqu'à aujourd'hui il ne sait pas manger, ne sait pas se déplacer, ne sait pas aller au travail sans polluer. Aujourd'hui, avec la population, la croissance démographique qui a évolué de façon extraordinaire, on sait que dans les années qui vont arriver, ce problème-là, il va être encore plus gros. Et donc ces jeunes générations, il faut qu'elles soient sensibilisées tout de suite pour diminuer tout de suite d'entrée de jeu leur façon de consommer dans cette société. Moi, c'est mon avis en tout cas.
Oui, je trouve que l'important, c'est de mettre en place des choses et agrémenter des choses qui existent déjà et rendre beaucoup plus important. On arrive déjà à l'heure de la pause musicale.
C'est la pause musicale.
Oui, donc là, c'est notre invité, comme d'habitude, qui a choisi la musique. Donc, je te laisse introduire la musique et tu nous expliqueras aussi pourquoi tu l'as choisi après.
Bien sûr. Alors, la musique, qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est mon dernier titre que j'ai sorti parce que je suis aussi passionné de musique électronique depuis que j'ai une dizaine d'années. Donc, je suis DJ, voilà, DJ producteur. Et j'ai réalisé ce titre-là il y a moins d'une semaine. Donc, c'est la dernière en liste. Et je vous laisse écouter ça. Donc, c'est un peu c'est de la dance ou house music, on appelle ça. Je vous laisse écouter ça. Merci beaucoup.
Love affair of house music, of house music. Please be aware of this love affair with house music, with house music.
pause musicale. Donc c'était Believe In, la dernière musique à mixer.
C'est ça, Believe In, la dernière de Matt Bédigny.
Eh oui, c'est notre Mister France 2025. Merci. Qui est ici avec nous pour cette émission spéciale sur son titre et aussi son engagement dans l'écologie.
Surtout.
Oui, un peu tout, voilà. Donc on va continuer à poser des questions. Moi j'avais une question avant qu'on reprenne tout ça, mais je vais vous rappeler aussi que vous pouvez nous rejoindre et appeler au numéro de téléphone, donc au 04 91 08 28 10. Et pour tous les gens du réseau Climat Jeunesse qui sont à l'écoute, vous pouvez poser des questions sur la conversation et on essaiera de les faire passer à l'antenne et de faire passer votre message. N'hésitez pas à dire qui pose la question et aussi à dire de quel pays, comme ça on peut bien identifier les personnes qui poseront les questions à l'antenne. Moi j'ai une question, c'est je pense que tu as beaucoup d'interviews dans tes journées, etc. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on te pose jamais?
Ouais, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour en arriver là aujourd'hui? Est-ce que vous avez travaillé sur certaines choses pour en arriver là aujourd'hui? Travaillé sur soi-même, je pense notamment, parce que c'est le cas. J'ai vraiment travaillé sur ma façon de parler parce que j'étais très timide quand j'étais petit.
Ah, d'accord.
J'ai fait 2 ans de théâtre aussi, ce qui m'a beaucoup aidé. Ma mère qui m'a forcé à faire du théâtre, je voulais pas, mais bon.
Bien joué.
Il avait raison ta mère, parce que le théâtre c'est une très bonne façon de se décoincer.
Et ça a été assez effectif hein, chez moi, c'est-à-dire que après ces 2 années de théâtre, je me suis senti beaucoup plus à même de parler avec les adultes, parce que j'avais une quinzaine d'années quand j'ai fait mes 2 ans de théâtre. J'étais encore au collège et c'est vrai que après j'ai fait des études qui ont été très très formatrices, très difficiles mais très formatrices en négociation et en prospection immobilière. Donc c'est un milieu qui est déjà un milieu de requins et en plus c'est très compliqué parce que mon boulot c'était d'aller chercher les terrains, donc d'aller toquer aux portes finalement pour dire bonjour, je veux acheter votre maison pour construire quelque chose.
Ouais, c'est toi qui fais qu'on bétonne partout.
alors c'est moi qui quelque part c'est un peu ça, mais c'est pas de la faute des promoteurs, c'est des convictions des mairies hein, qui sont mises en place. Nous on est juste les exécutants et ça faut bien le comprendre.
Non mais là c'est bien ce qui t'a dit ça, parce que pour envoyer ça, la responsabilité c'est politique. Ça veut dire que c'est très important que le premier responsable c'est lui qui dans les permis.
Oui, parce qu'on construit pas où on veut quand on veut. Hein. Encore ouais. Heureux d'ailleurs. C'est tout validé en mairie. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas le promoteur, c'est pas la faute du promoteur. C'est une conviction profonde de la mairie de vouloir construire ce genre de choses. Pour revenir à ce que je disais, en toquant aux portes, en fait c'est le boulot, un des boulots les plus difficiles que j'ai pu faire, parce qu'on se prend des noms à longueur de journée et ça forge. En tout cas, ça m'a forgé un vrai caractère et une vraie carapace là-dessus, parce que on travaille notre persuasion déjà pour être plus efficace quand on va toquer aux portes, et surtout on travaille notre façon de réagir à ces négations à longueur de temps.
D'accord.
Et moi ça m'a vraiment appris à développer toute ma partie éloquence, et puis surtout à développer ma façon de voir les choses et mon envie de réussir.
Super. Donc Marie, t'avais une question?
Oui, je me demandais dans ce monde de beaucoup de mauvaises nouvelles sur l'écologie, si tu avais des exemples de bonnes initiatives dont tu as été témoin pour protéger l'environnement, pour protéger la nature, diverses, que ce soit durant ton enfance, ton adolescence ou durant l'émission Mister France, par l'émission, ton travail après.
Alors j'en ai vu pas mal, j'en ai quelques-unes en tête qui me viennent, notamment les consignes. Par exemple éviter les bouteilles en plastique et plutôt venir avec ses bouteilles en verre, les remplir. Ça j'y ai vu en ferme pour le lait par exemple. J'ai vu ça aussi pour tout ce qui est alimentaire sec en grains par exemple, donc les céréales, ce genre de choses. C'est plus dans des paquets industriels, mais c'est plutôt avec des boîtes ou des sachets qu'on peut amener nous en fait, et tout ce genre de choses finalement. Faire attention aussi aux gobelets plastiques, plutôt prendre des vrais verres, voilà, ou des gobelets en biodégradables en carton par exemple quand on n'a vraiment pas le choix.
Ça c'est pour la partie alimentaire. Limiter aussi tout ce qui est emballage à usage unique. Je pense aux emballages alimentaires, les emballages plastiques par exemple, quand on va acheter de la charcuterie, bah voilà, ça c'est des emballages qu'on va utiliser, qu'on va jeter tout de suite en fait, parce qu'ils servent juste à ça, c'est-à-dire à emballer le produit, et après c'est tout, c'est sa seule utilité. Bah tout ça c'est des choses qu'on pourrait changer, et alors malheureusement c'est compliqué parce qu'on arrive dans une zone de confort. L'être humain quand il a du confort il est content, mais revenir en arrière c'est très compliqué, c'est un peu le problème d'ailleurs. Et après au niveau des transports, on peut dire ce qu'on veut, mais la voiture 100% électrique, dans certains cas, je précise bien dans certains cas, pollue nettement moins, si c'est pas 3 à 4 fois moins qu'une voiture thermique de même gabarit. Donc ça aussi, alors oui, ça coûte plus cher à l'achat, mais quelque part on fait un geste pour la planète. Et puis un plein pour une voiture électrique qui fait 500 km, c'est à peu près 30 euros. Il y a aussi ça, faut parler d'économie un petit peu, j'en parle avec beaucoup de tact, mais j'en parle quand même.
Oui, ben merci, c'est vraiment des actions concrètes que tu as pu voir et qui sont mises en place, et c'est vrai qu'on tend à changer et c'est bien de voir des choses positives qui se passent. Donc je vais laisser la parole à Angelina et ensuite à Victor.
Oui, moi j'avais une question justement par rapport à ça, le fait que tu aies eu un parcours avec une sensibilité à l'environnement, etc. Et après de passer du coup à un environnement, un environnement social avec Mister France qui est complètement différent, je me demandais si ça a pas été du coup pas dépaysant, mais est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y avait un contraste entre toi, ta sensibilité, et comment tu voyais toutes les choses avec la cause environnementale, etc., et les gens qui sont là, qui font des concours de beauté, et qui n'ont pas forcément peut-être autant de...
Je comprends tout à fait votre question. Vous savez, on défendait tous une cause différente. Je crois qu'on était deux à défendre l'environnement. Moi, c'était l'environnement de manière générale, et quelqu'un d'autre défendait aussi l'environnement marin. Parce qu'il avait été sensibilisé par rapport à ça grâce à de nombreux voyages. Et il y en a d'autres qui défendaient aussi des projets de vie, qui défendaient des choses très intéressantes, parce que l'environnement, c'est très intéressant, évidemment, c'est notre planète, c'est le bateau sur lequel on est. Mais il y a tout un tas d'autres problèmes qui sont, pour la plupart de ce que j'ai pu entendre, en tout cas chez Mister France, sociétaux. Notamment la santé mentale qui revenait très souvent, le harcèlement, voilà, ce sont des problèmes aussi qui sont ancrés dans notre réalité, tout comme l'environnement. Donc je pense qu'on avait une façon de voir les choses différentes, ça c'est certain. Après, est-ce que j'ai été dépaysé, c'est ça votre question, est-ce que j'ai été surpris de tout ça, non, pas forcément. Je défendais ma cause avec conviction, avec envie, et puis j'avais des arguments, et c'est pour ça que je me suis orienté vers cette cause-là. Après, les autres avaient aussi des causes très intéressantes, donc c'est plus une histoire de point de vue qu'autre chose, je pense.
Oui, je vais aller dans ton sens, parce que dans la communication, ce qui est très important, par exemple, moi-même, ici à Marseille, je peux avoir 10 casquettes différentes. Donc, je pense que des fois, on va prendre la casquette d'élu, ou la casquette parce qu'on va se mettre la cravate, on va être dans d'autres type de choses pour mieux passer le message. Donc c'est un avis qu'on se met. Dans ton cas, c'est pareil, tu as l'avis de Mister France avec quelques contraintes, mais beaucoup de liberté pour pouvoir dire des choses. Donc tu utilises ça. D'autres fois, par exemple, je vais parler un peu, je vais avoir un œil critique, je ne parle plus comme élu, je parle comme écoforum, parce qu'il va me donner la liberté de pouvoir parler librement. Donc je vais mettre pas des masques, je veux dire des habits différents, que je les assume très, très bien, mais que chaque habit va me donner limiter la chose, c'est-à-dire que tu ne peux pas tout faire. Tu sais qu'une image, même en choisissant de faire une semaine avec toi, par exemple, notre association, on a eu des critiques. Pour qui qu'est-ce qu'ils font ça, c'est associé à des gens comme ça, quelle ignorance. Voilà. Donc, ils vont dire des choses comme ça. Il faut aussi apprendre à continuer, à avancer, et ne plus écouter les gens qui sont toujours en train de dire des choses.
Souvent, ce genre de critique, c'est une histoire d'information. Ils sont juste pas bien informés sur ce qui se passe.
Et beaucoup, des fois, toxiques. Des fois, c'est des gens jaloux.
bien sûr,
qui
veulent
faire la même chose que toi, mais qui n'arrivent pas à la faire.
Peut-être, alors bon, je ne prétends pas à ça, mais peut-être que ce sont des gens, mais je serais même curieux de les rencontrer, ces personnes-là qui critiquent, pour leur prouver le contraire, que ce n'est pas juste un concours de beauté comme je pense ils s'imaginent,
oui.
Et que c'est plutôt un tremplin pour mettre en avant et mettre un gros coup de projecteur sur sa façon de penser.
Et je ferai le parallèle, par exemple, nous, on bat la COP. On bat la COP depuis la COP de Marrakech, on bat tout le temps dans la COP. Et chaque fois qu'on est dans la COP, ils disent oui, l'association bat la COP, c'est qu'il y a des voleurs, qu'il y a plein de gens là-bas qui sont pour se faire des frics. Oui, c'est vrai qu'il y a 90% des gens qui vont se faire des frics, mais il y a quand même 10% des experts d'association qui sont là, et qui sont là pour veiller que les choses se passent mieux. Sans ces associations-là, les choses iraient encore 10 fois plus mal. Donc ça ne veut pas dire qu'on donne crédit. Et pourquoi on le fait chaque fois dans des endroits où il y a le pétrole, où il y a des pays qui ne sont pas convenables pour faire la COP? Je ne le savais pas, mais bien souvent c'est une négociation. Tu le fais en Arabie Saoudite par exemple, tu le fais là-bas, ou tu le fais à Dubaï. Tu dis comment on peut faire une COP à Dubaï? Mais finalement on comprend qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a une image qui veut se donner les gens du pétrole, et ils demandent ça, ils s'échangent avec la COP pour dire on va donner tant de millions, tant de milliards, on va donner aux pays pauvres. Donc ça on ne le sait pas. Et finalement quand tu comprends la chose, quand tu comprends ce jeu stratégique des pressions, différentes pressions, finalement ils acceptent, et c'est pour ça qu'on se trouve avec les parents de la COP. Des fois c'est les ordinateurs, des fois c'est Total, des fois c'est... Donc c'est quand même contradictoire. Donc ce que je vous propose, c'est juste pour une question pour rapport à toi, qu'on t'a connu, tout ça, on a vu les calanques, tout ça, on a fait aussi une journée avec Atmo Sud. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu ta journée avec Atmo Sud, en deux mots.
Bien sûr, donc ma journée avec Atmo Sud, donc c'était hier, et on a passé une matinée déjà dans les bureaux, où on a pu voir un peu tous les tests et toutes les informations qui sont recueillies via un capteur, un petit capteur qu'ils réalisent sur place là-bas, parce qu'on a vu derrière le Fab Lab aussi,
un
c'est
micro-capteur.
Ça, Fab Lab, micro-capteur, voilà, qui permet d'indiquer, c'est un micro-capteur qui est à usage éducatif, me semble-t-il, c'est quelque chose qui va être installé dans des classes d'enfants, voilà, pour mesurer la qualité de l'air, savoir si oui ou non il faut aérer, savoir si il y a trop de gaz toxique,
ouais.
Voilà, trop de CO2. Et d'ailleurs j'ai trouvé ça assez intéressant la manière dont il a expliqué ça. C'est Dominique, hein, c'est ça?
Oui.
Dominique est le directeur, il me semble.
Dominique Robin, ouais.
Qui m'a expliqué ça en disant que on avait toujours cette somnolence, passer un certain temps dans une salle.
1500 parties par million.
Comment?
Avec à partir de 1500 parties par million, quand c'est marqué.
Voilà, au niveau d'unité, ouais.
À partir de là, tu peux avoir des somnolences.
Passer un certain seuil, en fait, de cette quantité de CO2, on commence à avoir une somnolence, et avec ce petit boîtier-là, on arrive à mesurer ça. Et d'ailleurs, il nous indique si oui ou non il faut ouvrir les fenêtres ou pas. Je trouve ça très intéressant. Et l'après-midi, on est parti du coup sur le site qui est
Parc Longchamp.
Le site Parc Longchamp, merci beaucoup. Un site qui permet de faire des mesures à peu près comme le microcapteur, mais beaucoup plus et beaucoup
déjà
plus
les
détaillé.
Déjà, les prix d'un microcapteur, tu les sais à peu près.
Oui, le prix du microcapteur, c'est 350 euros. D'ailleurs, ils m'en ont offert un. Hein. Merci beaucoup encore à eux.
Ah, merci à Atmo Sud. Et d'ailleurs, c'est très important qu'il offre un. Pourquoi? Parce que quand lui, il va faire les grandes présentations en tant que Météo France, il va les mettre dans les petites choses pour apprendre comment les choses changent.
Et derrière, donc on est allé visiter cet après-midi cette grosse enseigne avec une installation à plusieurs millions d'euros. Donc c'était l'équivalent du microcapteur, mais puissance 12, puissance je sais pas combien d'ailleurs, même plus encore j'imagine, avec des mesures beaucoup plus précises, où là on va aller chercher plutôt le détail de qu'est-ce qu'on a comme gaz exactement, d'où est-ce que ça provient, comment ça peut affecter notre santé, la toxicité des particules, quel genre de particules, enfin bon, des choses très scientifiques. J'étais un peu perdu d'ailleurs sans le cacher, mais
c'est normal, c'est perdre, parce qu'à un moment venu on touche une ignorance,
c'est ça,
on connaît pas tout,
ouais, mais c'était très intéressant. Et puis d'ailleurs Flavie qui était collaborateur là-bas sur place nous a très bien expliqué avec des mots très simples, de façon très très pédagogue ces informations là j'ai trouvé ça très remarquable.
Donc merci beaucoup. Là, il va nous rester plus que 10 minutes à l'émission. Je vais laisser la parole à Marie qui a une question. Et ensuite, on va passer en régie.
Du coup, moi, j'avais une question. Souvent, je peux me sentir frustrée face que beaucoup des messages des gouvernements nous disent donc de faire les petites actions écologiques qui sont bien recyclées.
Il y a un problème d'orientation.
Oui, regarde devant toi.
Oh, non, moi, comme ça.
Ça m'est arrivé tout à l'heure.
Et qui sont bien recyclées, les actions qui sont importantes. Mais merci Sarah. Mais souvent, on se retrouve avec des nouvelles où on sait que le gros des pollutions, des problèmes sont dus aux entreprises, aux riches qui, avec leurs jets privés ou d'autres. Et des fois, on se retrouve frustré en se disant, mais nos actions, est-ce qu'elles servent à quelque chose? Quel serait ton message aux personnes frustrées par cette politique, où ça semble être réduit à ça, comme si nous devions porter tout le poids du réchauffement climatique, alors que ceux qui en causent une bonne part sont souvent épargnés de ces messages écologiques?
C'est une question très compliquée, je pense. Mais j'ai peut-être des éléments de réponse. Il faut savoir qu'il y a à peu près 4 milliards, je me souviens plus des chiffres exactement. En fait, c'est pour ça que j'étais en train de chercher sur mon téléphone, parce que je voulais des chiffres exacts. Si vous me laissez le temps de retrouver exactement, j'ai pas envie de dire d'ânerie, mais il me semble qu'il y a je parlais ici du nombre de véhicules thermiques qui roulent dans le monde. On est à peu près à 4 milliards, me semble-t-il, de véhicules thermiques. Par rapport aux avions qui sont à peu près 25 000 à voler, et un avion avec 100, un équipage complet, à peu près 300 personnes pour les petits avions, c'est du 3 litres au 100 km par personne, là où un véhicule thermique avec une seule personne dans la voiture fait à peu près du 5 ou 6 litres au 100. On n'a jamais vu de voiture qui fait du 3 litres au 100, donc je pense pas que ce soit vraiment les avions ou les jets privés qui consomment. On est à peu près 8 milliards d'individus sur Terre, ça c'est encore une certitude, on a passé le seuil, et je pense que les petits gestes du quotidien, même si pour nous sont insignifiants, parce que comme je le disais juste avant, c'est un problème tellement grand, avec tellement d'inertie, que on verra jamais les résultats tout de suite, et on est dans une société où on veut tout de suite.
Oui,
donc
je pense que ça va
aussi avec la psychologie.
Je vais rebondir à ce que tu as dit. Bon, nous on a, c'est vrai qu'on est passé depuis un siècle et demi de 20 000 voitures à 1,4 milliard de voitures, de véhicules.
1,4 milliard. Ok, bon, autant pour moi,
donc,
c'était pas 4 milliards.
1,4 milliard, c'est juste pour mettre les chiffres qui sont là. On est passé de quelques molécules à des millions de molécules qu'on ne sait même pas où ils vont. Donc ta question, il est très pertinente, parce que la réponse est très simple. Chacun de nous doit faire le mieux qu'il peut, sans morale, le faire le mieux possible, sans morale, dit « je fais ma part ». Et plus tu fais ta bonne part, tu peux être heureux déjà psychologiquement de le faire. T'es pas responsable. T'es pas responsable, parce que même il y a des gens qui font un acte une fois par an, une petite chose. Peut-être toi tu fais tous les jours. Et peut-être d'autres ils font toutes les journées. Donc on a, avec la morale, on va pas aller loin. Donc après, dire que les jets privés, oui, il faut les critiquer, parce que c'est il faut continuer à les critiquer.
Bien sûr, bien sûr.
Mais c'est vraiment, si on compte la quantité, c'est un peu comme aujourd'hui, tu as une navette qui part, il y a beaucoup de particules fines, de pollution, mais il ne décolle pas tous les jours. Par contre, les 1,4 milliard de voitures tous les jours, ils font beaucoup plus de pollution que ces navettes.
Oui,
donc
mais,
il y a juste un moment qu'il faut se dire, personnellement, j'ai fait quelque chose, et si j'ai fait quelque chose, tu dois être content de ça et dire, voilà, chacun doit faire sa part et les casser les pieds pour que tout le monde bouge.
Oui, donc moi je voudrais conclure en disant que oui, le gros de la pollution, ça peut souvent être les industries, etc. Mais les décisionnaires de demain, ce sera les enfants qui sont aujourd'hui.
Et toi?
Et donc donner une éducation et donner l'exemple, ça permettra aux gens futurs de pouvoir changer les choses. Et sûr qu'on ne refera pas tout, mais par les petites actions, on peut commencer à donner un angle.
À donner l'élan, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. C'est plus ça. Donc et moi, je vais donner la parole à la régie pour avoir une petite question de fin, parce qu'on arrive bientôt.
Ils vont être tristes.
Oui, effectivement. Bon, on n'a pas eu d'appel, c'est un peu dommage, mais on arrive bientôt à la fin de la.
Et
de
c'est
l'émission.
La régie qui bloque tous les appels.
ça. Oui, Mathieu, juste à titre personnel, j'aimerais bien savoir comment toi tu perçois le futur Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait pessimiste au vu de tous ces enjeux et tout ce qui se passe actuellement?
Je pense que s'il y a quelqu'un qui est pessimiste au vu de tous ces enjeux-là, faut qu'il arrête de regarder les informations qui sont pessimistes et qu'il regarde le bon côté de la vie aussi. Parce que des informations pessimistes dans ce milieu-là de l'environnement, il y en a beaucoup, mais pas que dans l'environnement. Et je pense qu'aujourd'hui, on nous matraque aussi avec beaucoup d'informations négatives. Donc, je pense que le fondement de la question, c'est plutôt quel serait le message positif à annoncer. Je pense que c'est très compliqué de lier toutes ces variables pour qu'on arrive à un résultat efficace tout de suite. Ça, c'est presque impossible. Mais en faisant attention tous les jours, et c'est pour ça qu'on parle de sensibilisation auprès des jeunes, parce que c'est compliqué de redresser un vieux chêne tordu, comme on dit. Mais par contre, un jeune enfant qui est en plein apprentissage, si dans ses habitudes on lui inculque tout de suite ces valeurs-là, de faire attention à l'environnement, de faire attention à ses déchets, de faire attention à ses emballages plastiques, de faire attention à ses transports, et ben en fait les générations qui vont arriver derrière seront déjà sensibilisées par ça, etc., etc. Donc nous, on est dans cette phase de transition où on doit montrer l'exemple. Il faut être assez fort mentalement pour se dire il faut que je change moi et montrer l'exemple aux autres. C'est exactement ce que disait Sarah tout à l'heure, et je pense que ça passe par là. C'est très compliqué, hein, parce que comme je le disais aussi précédemment, ben l'homme, quand il a une phase de confort, il a pas envie d'en sortir. Il est bien, on est bien ici. Pourquoi tu veux me faire changer puis rétrograder? J'ai pas envie. Laisse-moi tranquille. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc il faut des personnes assez fortes et assez, je pense, ouvertes d'esprit, intelligentes aussi, pour comprendre les enjeux qu'il y a actuellement autour de l'environnement. Et c'est loin d'être fini. Et je pense que on peut totalement redresser la. Mais par contre, il faut y mettre du sien, ça c'est sûr.
Pour aller dans ton sens, aujourd'hui, par exemple, en France, on est à 15 millions d'enfants et de jeunes. Ce que tu viens de dire, si tu les sensibilises, tu sensibilises les parents, tu as plus de la moitié de la France en très peu de temps qu'on peut faire quelque chose. C'est juste pour aller dans ton sens.
Bien sûr, rajouter les chiffres que j'ai pas en fait.
De dire que c'est très efficace, c'est pas très cher et on peut le faire.
Ben, merci beaucoup Victor d'avoir complété. On va rester sur ce mot-là de la fin. Je vous rappelle qu'on sera présent jeudi prochain pour une autre émission de Radio Galère avec un nouveau thème et peut-être d'autres invités. Que cette émission sera aussi en rediffusion mardi matin à 10h, donc vous pourrez la réécouter. Merci aux gens du réseau Climat Jeunesse qui nous ont écoutés de très loin, je pense. Donc ça, c'est aussi une initiative qui a été créée pendant la COP. Et qui a fait son petit bonhomme de chemin.
1600 jeunes.
Plus de 1600 jeunes dans 26 pays, c'est extraordinaire, qui sont là pour le climat et engagés. C'est super de voir ça et de voir des initiatives de groupe.
Mais pardon, j'ai oublié une chose, c'est 1601 jeunes. Parce qu'il y a Mathieu qui va intégrer l'équipe.
C'est moi le 1, c'est moi.
Bah, parfait, merci beaucoup. Je laisse tout le monde dire au revoir et on va se quitter. Pour
hasta
aujourd'hui.
La vista, baby.
Merci beaucoup pour cet accueil et au plaisir.
Merci.